Mais je suis heureux de me retrouver parmi vous ce matin. Et comme l'a dit notre frère, j'ai été souffrant. Merci pour vos prières, ceux qui ont prié pour moi. Mais mon cancer, je vais le dire comme ça, s'est stabilisé. Et on doit continuer le traitement, mais merci Seigneur, parce que voilà, je suis là ce matin. Alors, ce matin, il y a eu deux choses qui m'ont sensibilisé très fort. Lorsque je suis entré, j'ai vu cette photo qui est là. Et je me suis souvenu, lorsque je suis passé en Israël, il est marqué sur la porte, « Ne le cherchez pas, il n'est plus ici. » Merci Seigneur, parce qu'il est ressuscité. Et la deuxième chose, où nous avons chanté, sur ce fécond salut du monde, ce cantique m'a rappelé le jour que le Seigneur m'a converti, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Vous voyez quelles émotions j'ai eues ce matin. Enfin voilà, ce matin, je suis aussi dans le même thème que notre frère nous a annoncé ce matin. Mon thème, c'est l'amour, notre plus grand besoin. L'amour, on en parle. Et puis dans nos assemblées aussi, on en parle. On parle de l'amour de Dieu, de l'amour entre frères et sœurs, de l'amour en général. Mais si nous étions honnêtes, la plupart d'entre nous diraient que notre plus grand désir, notre plus grand besoin est celui d'être aimé. N'est-ce pas? On désire être aimé de tout le monde. Pas de cet amour galvaudé dans tellement de chansons et beaucoup de films qui ne sont que du bluff et du vent. L'acceptation, c'est-à-dire acceptée par les autres, viendrait au deuxième rang. En fait, pour bien des gens, l'amour et l'acceptation vont de pair. Ce qui est aussi vrai du point de vue de Dieu. Cependant, sa conception de l'amour diffère énormément de la nôtre. On en a parlé ce matin. Et cette table auquel nous avons participé, nous rappelle l'amour de Dieu. Cet amour immense. C'est là qu'il a... Il nous rappelle qu'elle a donné sa vie en rançon pour mon péché, pour vos péchés. Cependant, maintenant, nous pouvons voir que dans l'esprit humain, l'amour est souvent associé à ce que nous avons fait de bien plutôt qu'à ce qu'ils nous ont donné librement, sans lien avec le rendement. Vous comme moi, vous connaissez des personnes qui disent à vous aimer aussi longtemps que vous donnez. Mais le jour où vous ne donnez plus, leur amour s'envole. Nous sommes souvent tentés de croire que si nous pouvons plaire à nos parents, à notre conjoint, à notre employeur, à nos amis, nous nous sentirons alors aimés. Mais ce n'est jamais le cas pour très longtemps. La vie est basée sur ce genre de performance et devient davantage un devoir qu'une motivation. En réalité, nous ne pouvons pas nourrir les attentes des autres indéfiniment. Tôt ou tard, les murs s'effondrent et la vie commence à s'écrouler. Je vous invite à lire un passage avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 et 2. Voici ce qui est dit. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Louis II, donc, dans cette version, dit « si je n'ai pas la charité », et charité signifie « principe de lien spirituel, moral, qui pousse à aimer de manière désintéressée ». Mais je voudrais peut-être vous le lire dans une autre version, qui est peut-être un petit peu à l'oreille plus compréhensible que celle-là. Je vous le lis en parole de vie. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, si je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante, je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi aussi grande pour déplacer la montagne. Et voici la phrase principale. « Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. » Toutes les œuvres que vous pouvez considérer comme avantageuses pour mériter la faveur de Dieu ne suffisent pas à vous procurer l'amour et l'acceptation qu'il a pour vous. On peut être actif, mais pas donner de son temps pour parler de Dieu. Souvenez-vous de cette histoire qui se passait chez Lazare. Tandis que Marthe s'affairait à préparer un repas, Marie était assise aux pieds de Jésus, savourant chacune de ses paroles. Selon Jésus, c'est Marie qui manifestait l'amour en action et qui avait choisi la bonne part. Nous voyons ça dans l'évangile de Luc. Et 1 Corinthiens aussi 12:31 nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et encore dans la même épître de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8, il est dit « L'amour ne périt jamais ». L'amour ne périt jamais. Ce qui est toujours vrai quand Dieu en fait partie. Je souhaite que votre désir le plus profond soit de vivre chaque jour dans sa miséricorde, dans sa grâce, et par-dessus tout, dans la richesse de son amour. L'amour extraordinaire de Dieu est la chose sans laquelle nous ne pouvons vivre. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais en tout cas, moi, oui. Nous pouvons imaginer, et je vous rappelle à vos souvenirs, un passage de Jésus avec la femme qui était prostituée. Nous pouvons imaginer le sentiment de panique qui s'empara de la femme adultère, dont l'histoire nous est racontée dans la Bible. Des bruits de pas lourds de l'autre côté de la porte annonçaient l'arrivée d'intrus. Même avant qu'ils ne franchissent le seuil de la maison, cette femme savait qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère. Pourquoi n'avait-elle pas vu cela venir? On ne sait pas bien. Mais elle ne pouvait fuir nulle part. Elle reconnut instantanément les hommes qui entrèrent dans sa chambre. Ils venaient du temple, et s'ils réussissaient à l'inculper, elle ferait face à beaucoup plus qu'à quelques questions révélatrices soulevées dans une cour civile. Elle serait lapidée. Mais la lapidation, c'est pas quelque chose d'agréable. Hein. Vous savez, une pierre, deux pierres, trois pierres, jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. En fait, son sort était scellé, à moins d'une intervention miraculeuse. La femme prise en adultère avait vécu sans amour, un amour véritable. pendant si longtemps qu'elle n'osait plus rêver de le trouver un jour. Il est probable qu'elle ait demandé miséricorde, mais ses ravisseurs resserrèrent l'étau. Ils n'allaient pas la libérer de sitôt, et ils ne s'y attendaient pas. Et elle ne s'y attendait pas, sachant qui elle était. Consciente de son état de pécheresse, elle avait souvent entendu les autres murmurer des commentaires à son sujet. « As-tu vu celle-là, hein? Tu la connais, hein? Ah ouais, voilà, et puis, bon, les gens passent des meilleurs. » En réalité, elle avait souvent repassé leurs paroles dans son esprit. Elle était vraiment méprisée, désespérée et perdue. Le péché avait capturé son cœur et son être. Elle n'était pas disposée, et il n'était pas disposé à la relâcher, ni maintenant, ni jamais. Du moins, pas avant qu'elle rencontre le Sauveur. Le Dieu d'amour est le Dieu qui se préoccupe profondément de chacun de nous. Sans amour, nous sommes sans espoir. Jean nous dit que Jésus enseignait dans le temple ce matin où ce groupe de scribes et de pharisiens sont entrés accompagnés de la femme prise en adultère. On voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Au début, la scène était chaotique. Il y avait un flot de paroles, des accusations rapides. Et l'autre parlait, etc. Et pour finir, il y avait un brouhaha, quoi, on ne s'y comprenait plus. Puis, livrant leur prisonnière au pied du Sauveur, l'un des pharisiens dit à Jésus, « Maître, le faucheton, mais il appelle maître d'abord, hein, ce n'était pas leur sentiment. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Le péché isole toujours, nous empêchant de jouir de la communion avec Dieu, tout en créant un sentiment insupportable de solitude et de crainte. De plus, il divise notre esprit et change l'objectif de notre cœur. Au lieu de nous tourner vers Dieu, en général, nous recherchons les choses même qu'il estime coupables, des choses qui entraînent souffrance et peine indicible. Personne ne pouvait se sentir plus isolé et effrayé que cette femme. Toutefois, cette expérience de honte extrême et de brisement a fini par mener à son salut. Aussi horrible et répugnant que soit la scène, elle était porteuse d'espoir et de grâce incroyable parce que Jésus était avec elle. Un seul regard dans les yeux du Sauveur et elle réalise que, peu importe ce que lui réservait l'avenir, elle pourrait y faire face. Les chefs du temple ont reculé et attendu la réponse du Seigneur. Ils avaient tous convenu d'un complot et Jésus le savait. Tous ceux qui étaient présents surveillaient la scène pour voir si Jésus accuserait cette personne qui était de toute évidence coupable ou s'il la libérerait. Ce qui est important de savoir, c'est que la revendication des chefs religieux du temple visait à piéger Jésus. S'il niait son engagement envers la loi de Moïse, on le traiterait comme un coupable aussi. Mais plutôt que de tomber dans leur piège, Jésus a offert à la femme exactement ce que chaque cœur humain désire ardemment, recevoir l'amour, le pardon. Le but de l'amour de Dieu n'est pas d'approuver nos péchés, mais de transformer notre vie par la foi en son Fils. Le Seigneur savait que la loi exigeait la mort de cette femme par lapidation, mais il ne la condamnerait pas. D'un point de vue humain, elle était coupable conformément aux accusations, mais du point de vue de Dieu, elle était une pécheresse qui était sur le point de devenir une personne sauvée par grâce. Dieu aime tous les hommes, mais pas leurs agissements. Je répète, Dieu aime tous les hommes, mais pas leurs agissements. Pardon. Jésus a donc lancé une invitation. Et on trouve ça dans l'évangile de Jean aussi, dans ce récit. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Qui était sans péché? Je pense qu'il n'y avait personne. Donc, personne ne s'est avancé. Étant pécheurs, les gens présents avaient besoin de la grâce de Dieu pour leur propre vie. Toutefois, aveuglés par leur orgueil, ils ne réalisaient pas qu'eux aussi avaient besoin de l'amour et du pardon de Dieu. Comme ces hommes, vous pensez peut-être que vous avez vécu toute votre vie sans engagement dans un péché de cette nature. Maintenant, je ne condamne personne. Moi, j'ai très facile ici. Je ne vous connais pas. Donc, pour moi, c'est très facile de prêcher, de dire certaines choses. Ne vous croyez pas. Ne croyez pas que je vous condamne l'un ou l'autre. Je ne suis pas venu pour cela, d'ailleurs. Cependant, comme dit la Bible, la parole de Dieu, tous ont péché. Et certains, les péchés blessent le cœur de Dieu. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Un péché est un péché. Tous ont péché. Par exemple, lorsqu'on fait une remarque désobligeante, une pensée orgueilleuse, une parole de colère lancée à la hâte. À ce propos, quelqu'un me parlait hier, je pense. Si vous jetez un caillou vers quelqu'un, vous pouvez courir vite pour le rattraper, vous ne le rattraperez pas. Un esprit amer est rempli de ressentiments sont tout aussi mortels que le péché que cette femme a commis. Vous me direz, mais pourquoi? Parce que n'importe quel péché nous empêche de connaître le bonheur, de communier avec Dieu. Il nous dérobe la paix intérieure, le contentement et la joie que Dieu offre à tous ceux qui viennent à lui. Le péché crée également la division entre nous et ceux que nous aimons. Même si Jésus est attristé par la façon dont cette femme était venue vers lui, il a vu le potentiel de sa vie. Et c'est ainsi qu'il nous regarde, nous aussi. Peu importe la gravité de notre péché, Dieu n'a pas honte de nous offrir le plus grand cadeau que nous puissions recevoir, c'est-à-dire son amour. Éternel. Éternel ne veut pas dire 4, 5 jours, 1 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans. Non, éternel, c'est pour toujours. Qui dépasse largement le pire péché que nous puissions commettre. Par exemple, les services bancaires en ligne et les cartes de crédit l'ont bien compris et nous incitent à ignorer le coût des choses. Il en est de même du péché. Notre culture jouit des plaisirs temporels en faisant fi du prix que, selon Dieu, elle devra payer pour sa transgression. Romains 6, 23 nous dit ceci, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous accorde, c'est la vie éternelle. » Notre Père céleste nous aime, même si nous ne réalisions pas parfaitement son plan et son but. Son esprit nous convainc de péché. Et son amour infini nous ramène là où il veut que nous soyons. 2 Corinthiens 5, 14 dit, « En effet, l'amour du Christ nous étreint. » Une étreinte, c'est quelqu'un qui vous prend comme ça dans ses bras. « Car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. » Et tout à l'heure, notre frère nous en a parlé. « Ne soyons pas effrayés d'aller à son trône de grâce et de miséricorde. Puisque si vous avez péché, vous devez savoir que vous avez un sauveur qui vous aime, d'un amour éternel. Et il n'existe aucun amour plus grand que le sien. » D'ailleurs, il l'a prouvé, il a donné sa vie sur la croix pour toi, pour moi. Cependant, beaucoup de gens n'ont jamais ouvert leur cœur au Sauveur ou à la possibilité qu'il les aime. Même si leur vie a été criblée de péchés, ils luttent toute leur vie contre le sentiment de culpabilité et de honte. Nous pouvons dire, par la façon dont cette femme a répondu à Jésus, qu'elle était maintenant prête à abandonner son ancienne manière de vivre. Quand le Seigneur lui a demandé s'il restait quelqu'un pour l'accuser, elle a répondu, « Non, Seigneur. » Elle s'est adressée comme à lui comme son Seigneur et son Maître. Mais quel est le but de l'amour de Dieu? Il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher l'amour sans jamais le connaître, parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'il a toujours été disponible. Souvent, Dieu permet aux conséquences de notre péché de nous rattraper pour obtenir notre attention et nous amener à un point de confession où nous implorons son pardon. Vous n'avez pas à passer un autre jour, ou si c'est votre cas, une autre heure, ni même une autre minute à vivre sans amour. Dès que vous levez les yeux vers Dieu et confessez votre péché, il vous pardonne. Le Seigneur vous sauvera et transformera votre vie tout en vous donnant un espoir qui ne disparaîtra jamais. En fait, personne ne vous aimera jamais plus que lui. L'amour de Dieu est éternel. Longtemps avant votre naissance, le Seigneur avait déjà déterminé de vous aimer. Aucun péché n'est trop grand pour l'empêcher de vous aimer. Son amour atteint les perdus et ceux qui souffrent et qui sont seuls dans leur péché. Dieu nous poursuit d'un amour éternel. J'ai bien dit, il nous poursuit. Il connaît les moments où nous luttons avec la tentation et la solitude à laquelle nous faisons face par suite de nos actions. Parfois, lorsqu'on n'est plus dans la direction du Seigneur, on se sent si malheureux, si rejeté. Et j'en parle en connaissance de cause, croyez-moi. Quand nous l'implorons, il entend nos prières et répond à notre appel à l'aide. D'ailleurs, le psaume 107, verset 13 dit, « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. » Si vous criez à l'Éternel, il vous délivrera. Et 1 Jean 1, 9, nous dit « Alors, si nous avons, avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Merci Seigneur. L'amour divin ne nous condamne pas. Jésus a dit qu'il est venu sur la terre pour sauver ceux qui étaient perdus. Nous sommes libérés de l'esclavage, du péché, quand nous le suivons et apprenons à vivre selon ses principes. L'amour de Dieu est incompréhensible. On ne peut pas le comprendre. Il y a des grands érudits qui ont essayé de l'expliquer, mais il est toujours résumé. L'amour de Dieu est incompréhensible. Il n'a ni commencement ni fin. Et il dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il est plus grand que notre plus grand péché. Peu importe où nous sommes allés ou ce que nous avons fait dans le passé, son amour envers nous reste constant, engagé et sans réserve. Son amour ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'attend pas que nous rectifions notre vie avant de nous aimer. Il a prouvé son amour même lorsque nous étions encore perdus, lorsque nous étions dans le péché. Romains chapitre 5 verset 8 dit « Mais voyez comment Dieu démontre l'amour qu'il a pour nous. Le Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. » Ici, Paul s'appuie sur sa propre expérience pour nous aider à découvrir ce qui change dans notre vie à partir du moment où, grâce à la foi, l'ordre vrai, la justice, a été rétabli en nous. L'amour du Seigneur nous couvre. Après qu'Adam et Ève eurent péché et furent bannis du jardin d'Éden, Dieu leur avait fabriqué des habits de peau d'animaux. C'est dans Genèse chapitre 3, 21. C'était la première fois que du sang était versé pour expier le péché. La dernière expiation a eu lieu sur la croix du calvaire. Dieu nous aime sans restriction. Il n'y a aucune limite à l'amour divin. Si Dieu nous avait aimés en fonction de nos œuvres ou de notre conduite, son amour sera alors conditionnel. Mais ce n'est pas le cas. L'amour de Dieu est inconditionnel, indéfinissable. L'amour de Dieu est sacrificiel. Jésus est mort pour mes péchés, pour vos péchés. Chacun d'eux, y compris les fautes que vous avez commises il y a plusieurs années ou celles que vous commettrez dans l'avenir. Le but de son amour n'est pas d'approuver votre péché, mais plutôt de changer votre façon de vivre. Il ne tient pas compte du nombre de fois que vous avez échoué. Il veut que vous appreniez à l'aimer tellement que vous voudrez abandonner le péché et le suivre par amour et en vivant dans la sainteté. C'est l'invitation qu'il vous lance. C'est la même qu'il a lancée à la femme qui a été prise en adultère. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous donne la force de venir à lui. Ce matin, j'ai agité la cloche. Je ne sais pas pour qui, pourquoi, comment, mais le Seigneur m'a demandé d'agiter cette cloche. Même si vous pensez que votre péché ne pouvait plus être pardonné, ou peut-être avez-vous un péché caché qui vous empêche d'avancer dans votre vie chrétienne, venez à Jésus à cet instant. il est encore prêt à vous pardonner. Et je vous laisse ce passage du livre des psaumes, c'est le psaume 145, verset 14. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés, il remet debout tous ceux qui fléchissent. Soyez donc assurés de son amour pour vous en toutes circonstances. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.